Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
La mort d'Émile Zola, épouvantable accident, titre Le Petit Bleu de Paris. Mort tragique d'Émile Zola pour Le Français, mort dramatique pour Le Matin. La vérité sur la mort d'Émile Zola, annonce Le Soir. Ou l'Aurore, en toute sobriété, 6 colonnes à la une, Émile Zola. L'écrivain est retrouvé mort, asphyxié, à son domicile, le 29 septembre 1902.
Il fait froid, on allume du feu, cette cheminée ne tire pas, dit Zola. Il s'interroge pour savoir s'ils vont réveiller le personnel, et puis il décide de dormir quand même. Vers 3h du matin, Madame Zola se réveille, incommodée. Elle sort de la chambre, elle va dans le cabinet de toilette voisin, elle est prise de malaise, elle revient. Zola dit « ça va se passer », elle se recouche. Et puis c'est tout. Le lendemain matin, quand les domestiques arrivent, vers 8h, ils n'entendent pas de bruit, ils s'inquiètent, il y a des fumistes dans la cour. Ils finissent par ouvrir la porte, par faire venir un serrurier, par ouvrir la porte sur la demande de la concierge, et on trouve Madame Zola inanimée et Zola mort.
La mort d'Émile Zola présentée dans la Tribune de Paris en 1954. Bonjour Alain Pagès.
Bonjour.
La mort d'Émile Zola, avant tout, il faut peut-être rappeler combien l'annonce de la mort de Zola est un retentissement. Toute la presse fait ses titres avec la mort de Zola.
Effectivement, en 1902, toute la presse en parle. C'est un événement inattendu. On ne sait pas de quelle façon il est mort, mais la thèse de l'accident est celle qui est proposée immédiatement. Et au fond, cette presse, elle est dans le climat de l'affaire Dreyfus qui est là, présent. Et tout de suite, on parle d'ailleurs des obsèques qui vont avoir lieu quelques jours plus tard. On se demande si elles vont donner lieu à une manifestation anti-Dreyfusarde. Voilà l'atmosphère dans laquelle cette mort intervient.
Oui, parce que nous connaissons bien Émile Zola quand il prend la parole, le J'accuse dans l'Aurore. Mais l'affaire Dreyfus en 1902 n'est toujours pas finie.
Non, en 1902, elle n'est pas terminée. Zola, d'ailleurs, mourant ce jour-là, ne verra pas la réhabilitation de 1906, c'est-à-dire ce moment assez extraordinaire, il faut le dire, grâce à la Cour de cassation où Dreyfus et Picard sont réintégrés dans l'armée. Et c'est le jour aussi, d'ailleurs, en juillet 1906, dans un débat qui a lieu à la Chambre, où on décidera de la panthéonisation d'Émile Zola.
Ce moment de la mort d'Émile Zola, on vient de le dire, est quelque chose qui trouble tout le monde, parce qu'il y a la soudaineté de la mort. C'est peut-être ça aussi qui est intéressant, c'est que nous savons bien que cette presse du début du XXe siècle, et sans doute aujourd'hui encore, adore les faits divers. Et évidemment, quand le fait divers s'associe à un grand nom comme Émile Zola, et un nom qui provoque la polémique, tout de suite, toutes les hypothèses peuvent être avancées. Est-ce que l'idée d'un assassinat est déjà présentée au moment de la mort ?
Alors l'idée d'un assassinat, non. On a parlé de suicide. La presse catholique, d'ailleurs, d'une façon assez extraordinaire, pensant que Dieu punissait Zola, puisque Zola était considéré comme un personnage qui avait parlé contre les évangiles, qui avait d'ailleurs calomnié d'une certaine façon l'Église avec son roman sur Lourdes, hostile au miracle. La presse catholique pense à un châtiment divin, ou bien on parle d'un suicide. Mais la question de l'assassinat n'est pas posée.
Mais c'est pas posé clairement comme ça. À quel moment peut-on voir apparaître l'idée que Zola, possiblement, a été assassiné?
Alors, sa femme elle-même, qui a survécu, n'a jamais pensé à un assassinat. Elle pensait à un accident, car des rumeurs ont pu courir, montrant que cette cheminée, cause de sa mort, avait été bouchée. Et on a pensé, c'est ce qu'on pensait dans les années 1920, au fond c'est ce que pensait Alexandrine, qu'il s'agissait d'un accident, un maçon qui avait malencontreusement bouché cette cheminée avec un tampon de plâtre. Hein. Voilà la thèse. Et c'est seulement beaucoup plus tard, au moment où on commémore les 50 ans de la mort de Zola, en 1952, donc 53 exactement, au moment où un journaliste d'un journal qui s'appelait Libération à l'époque, qui n'était pas le Libération d'aujourd'hui bien sûr, ce journaliste appelé Jean Bedel, recueille, alors là c'est extraordinaire, les confidences d'un homme qui s'appelait Pierre Raquin et qui lui parle de la façon dont Zola aurait pu être assassiné. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une confession qu'il a recueillie lui-même quelques années auparavant, quasiment 25 ans auparavant, en 1928, de la part d'un certain Henri Buronfosse. Mais ce Buronfosse, il ne le nomme pas. Il est à cette époque, en 1953, uniquement désigné par la lettre Z. Eh bien, ce Buronfosse lui dit que lui, oui, voilà, il était fumiste et il avait, de façon intentionnelle, bouché ce soir-là, le 28 septembre, la cheminée de la chambre à coucher.
Nous écoutons justement Jean Bedel.
Ma thèse est... qui est devenue la mienne,
C'est celle d'un employé d'une entreprise de maçonnerie de Sarcelles qui est venu faire des travaux dans une maison voisine de celle de Zola, qui a repéré la cheminée de Zola, qui conduisait donc à la chambre, et qui, le soir où Zola est rentré de sa campagne, de Médan, l'a bouché avec des plâtras et un bouchon de goudron.
Il a fait ça pourquoi ?
Il voulait tuer Zola. À l'époque, Zola était haï d'une partie de la France.
Mais il était manipulé ?
Il était manipulé, non, il avait des convictions, il était nationaliste. Et plus tard, on sait qu'il appartiendra à un mouvement nationaliste où il rencontrera un ami nationaliste également, à qui, à la veille de sa mort, il confiera qu'il a tué Zola volontairement. Je pense qu'effectivement, l'assassin de Zola, dont je connais le nom, a procédé de la manière qu'il a parfaitement décrite, et c'est la seule façon d'expliquer que les expériences n'aient donné aucun résultat et qu'on a cru qu'il s'agit...
Vous pouvez le citer, ce nom ?
Oui, c'est monsieur Henri Buronfons, entrepreneur à Sarcelles.
Jean Bedel, le journaliste qui s'exprimait alors là en 1985, mais c'est sa vie entière, hein, parce que vous nous l'avez dit, Alain Pagès, il développe toute cette thèse dès qu'il a le témoignage, et puis il publie, mais bien plus tard, c'est en 2002, Zola assassiné. C'est toute sa vie de dire Zola a pu être assassiné.
Oui, toute sa vie, parce qu'en fait, le nom de Henri Buronfos, qui est ce membre de la Ligue des Patriotes, fumiste ou maçon, qui est donc l'assassin possible de Zola, eh bien, ce nom-là, il ne le livre qu'en 1978, d'ailleurs, dans un journal qui n'a pas d'écho, et puis effectivement, il en reparle, et c'est en 2002, au moment du centenaire de la mort de Zola, qu'il reprend tous les éléments.
Avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, Martine Leblond-Zola, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Votre nom évoque tout de suite l'auteur, vu que vous êtes son arrière-petite-fille. Est-ce que cette histoire que nous évoquons de la mort d'Émile Zola, mais de la révélation d'un assassinat possible, et on va en rediscuter hein, sur cette idée de possible, est quelque chose qui est véhiculé dans la mémoire familiale. Est-ce que ça a été un moment fort de votre histoire familiale, cette annonce ?
Oui, ça a été un moment fort, et là j'ai une pensée particulière pour les enfants de Zola, Denise et Jacques, qui le 29 septembre, on leur a annoncé la mort brutale de leur père. Et d'ailleurs, Denise le décrit dans son livre « Émile Zola raconté par sa fille ». Elle disait qu'il était certes affreux de perdre son père, mais elle disait « je doute qu'il soit pire, toujours pire douleur que d'apprendre sa disparition d'une famille ». Façon si brusque quand rien ne vous y a préparé. Donc pour eux c'était un drame, et je sais que pour mon père, pour mon cousin aussi, docteur Jacques-Émile Zola, docteur François-Émile Zola, ça a toujours été cruel de parler de cette mort. Alors certes, l'hypothèse d'un assassinat politique est crédible par rapport à l'hypothèse d'un accident, naturellement, mais là encore, comme il n'y a aucune preuve réelle, la mort de Zola reste un mystère. Mais c'est vrai que dans la famille, on occulte toujours cela, parce qu'en fait, c'était la mort du père, du grand-père, de l'arrière-grand-père, et c'était une grande perte. Et il faut aussi se souvenir que lors des funérailles de leur père, Denise et Jacques, ainsi que leur mère Jeanne Rosereau, étaient perdus dans la foule. Donc c'était très très difficile, et c'est toujours difficile. J'ai toujours une pensée pour ma grand-mère et puis son frère. Il faut penser que c'était un homme qui était à la force, qui avait la force encore de l'âge, qui avait encore beaucoup de projets littéraires, et que ça a été un drame pour la famille et aussi un drame pour l'humanité, parce que avant de mourir, Zola avait beaucoup de projets pour écrire encore des drames, pour libérer l'homme, comme il le disait lui-même, en fait. Donc ça a été une perte cruelle pour la famille et pour l'humanité.
Il n'avait que 62 ans, hein, c'est
il était en bonne santé.
Alain Pagès, aujourd'hui, où en sommes-nous avec cette idée d'assassinat ou d'accident autour de la mort d'Émile Zola ?
Alors juste un mot pour rebondir sur ce que dit Martine. La dernière phrase que Zola a prononcée, correspondant d'ailleurs à cette vision humaniste qui était la sienne, c'est « Demain, nous serons guéris ». On le sait, hein, grâce au témoignage d'Alexandrine. Alors où en est-on ? Le témoignage de Bedel est très important. Le fait qu'il ait donné le nom d'Henri Buron-Fosse, moi, m'a conduit à des recherches qui m'ont permis, je dirais pas d'apporter la preuve, car Martine Leblond a raison d'insister sur le fait qu'on n'a pas de preuve, donc cela reste un mystère. Mais malgré tout, de confirmer cette thèse de deux façons. D'une part, on sait qui est Henri Buron-Fosse. Enfin, son existence peut parfaitement être analysée. On connaît la date de la fondation de l'entreprise de fumisterie et qui était la sienne en 1900. On sait son âge, sa date de naissance, etc. Enfin, son parcours, je ne vais pas le détailler ici, il est clair. Surtout, on sait qu'il était membre de la Ligue des Patriotes, qu'il était même dans cette Ligue quelqu'un qui avait un grade assez important. Il était commissaire, c'est-à-dire il était chargé de l'organisation des manifestations. Donc il y a là un élément clair. On voit un homme qui est exalté, qui est poussé par une sorte de folie nationaliste, qui a une occasion et qui décide un jour de boucher cette cheminée. Il arrive le lendemain à la déboucher, donc il n'est pas soupçonné, d'autant plus qu'on pense que peut-être, au fond, il y a une sorte de maladresse de la part d'un ouvrier. Et voilà le Henri Buron-Fosse de 1902 qui est l'auteur d'un acte très grave, non pas peut-être la volonté d'un assassinat, mais en tout cas qui a conduit à la mort de Zola.
Je serais plus pragmatique dans le fait qu'il n'y a pas que le dossier d'instruction a été détruit. Buron-Fosse a libéré ses paroles sur son lit de mort, mais n'était-ce pas un mythomane tout simplement? Moi, je suis très dubitative et je crois en la vérité. Et pour le moment, la vérité, on ne la connaîtra jamais sur la mort de Zola.
Surtout qu'il y a eu une enquête.
Enfin, conclusion, accident.
C'est-à-dire...
Oui.
Enfin, j'ai désigné deux experts, l'un de la préfecture, l'autre de l'intérieur.
Ils ont examiné la cheminée.
Oui, monsieur le préfet.
Et alors?
Elle était alors débouchée.
Eh oui.
Et pourtant, en rentrant de Médan, le valet de chambre a fait du feu. Les boulets se sont consumés lentement. Un tirage réduit. On a testé de l'oxyde de carbone.
Écoutez, commissaire Cornette, moins on parlera de cette affaire, mieux nous nous porterons.
Monsieur le préfet,
Oui.
Avant l'été, monsieur Zola est venu me voir. Il recevait beaucoup de lettres de menaces. J'ai apporté le dossier.
Cela continuait ces derniers jours?
Il y a eu une recrudescence en septembre. Il y a eu une bombe rue de Bruxelles.
Oui, et des lettres de menaces, dites-vous? Non, quelques lettres.
Des centaines, monsieur le préfet.
Bon, vous remettrez le dossier à la famille.
Émile Zola ou La conscience humaine, un téléfilm de 1978 dans lequel c'est Jean Toparin qui joue le rôle d'Émile Zola, Alain Pagès, dans ce qui est évoqué ici au moment de l'enquête. Bien sûr, faire du bruit autour de la mort d'Émile Zola est quelque chose que tout le monde guette. Nous sommes dans cette période de l'affaire Dreyfus, nous sommes dans une période où la France est complètement déchirée. Et là, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il y a la volonté d'étouffer tout ça. Est-ce que ça a pu être réel, ça?
Ça correspond tout à fait au témoignage de Cornette. On vient d'entendre le commissaire Cornette, qui est le commissaire du 9e arrondissement. Effectivement, il a, un peu plus tard, d'ailleurs, alors qu'il était à la retraite, dit que oui, on a voulu étouffer l'affaire. On a voulu, en tout cas, que l'enquête soit aussi courte que possible. Elle a eu lieu, cependant. Hein. 6 mois d'enquête, c'est un juge qui avait été nommé, il s'appelait Bourouillou. On a convoqué des architectes, des experts en toxicologie. Bon, une enquête a été faite qui n'a abouti à aucune conclusion et qui a confirmé l'idée de l'accident. Mais on n'a pas voulu, enfin, les autres autorités n'ont pas voulu aller trop loin, finalement.
Et également, Madame Zola ne voulait pas justement faire d'enquête, elle ne voulait pas relancer le scandale. Elle avait demandé à Alfred Dreyfus de ne pas être présent lors des obsèques de Zola. Elle avait même demandé à Anatole France de ne pas évoquer l'affaire Dreyfus au cours de son discours. C'était relancer un scandale, voyez-vous. Donc la famille a demandé aussi, on n'a pas insisté pour que l'enquête, n'est-ce pas?
Tout à fait, oui.
Alain Pagès, vous êtes le spécialiste de l'affaire Dreyfus, vous la connaissez par cœur, cette affaire Dreyfus-là qui doit se comprendre sur un temps assez long. Hein. Nous sommes à un moment de l'affaire Dreyfus avec la mort de Zola, au sens où Émile Zola, quand il accuse à la une de l'Aurore, eh bien, a fait énormément bouger les choses dans cette affaire. Est-ce que, pour les partisans de Dreyfus, vous l'avez bien rappelé, hein, il n'est pas encore réhabilité, la mort de Zola, ça peut être quelque chose qui peut empêcher cette réhabilitation?
Non, sans doute pas. Enfin, en tout cas, on pense à une manifestation dreyfusarde au moment des obsèques. Ils sont là, oui, les dreyfusards, les anti-dreyfusards ont eu la décence de se taire autant que possible. Ces obsèques ont eu lieu, Martine Leblond le rappelait à l'instant. Elles se sont terminées par ce magnifique discours d'Anatole France sur la tombe de Zola. Il fut un moment de la conscience humaine. Donc c'est une étape, en effet, vers 1906, qui est le moment de la réhabilitation et de Dreyfus et de Picard, et donc cette séance qui a lieu à la Chambre des députés, je l'évoquais à l'instant, juste avant le 14 juillet, un peu en fin de séance, au fond, les débats sont sur le point d'être terminés, et on prend la décision, puisqu'ils ont été réhabilités, que celui qui est mort est une sorte de réhabilitation, et là, c'est la décision de la panthéonisation. Mais cette panthéonisation qui est décidée en 1906 mettra, à la suite de débats qui, eux, vont prendre une force importante, mettra deux années à aboutir, puisque Zola n'est panthéonisé que le 4 juin 1908.
Alors, il y avait du monde hein, pour la panthéonisation d'Émile Zola, et parmi la foule, il y en avait un, c'est Jean Sénep, le caricaturiste, vous savez, celui qui a illustré la presse, et on a croisé les dessins de Sénep. Il était là, ce jour-là, en 1908.
J'ai eu le hasard a fait que j'ai assisté, étant encore élève au collège Sainte-Barbe, au transfert des cendres de Zola au Panthéon. J'étais aux premières loges parce que mon père était maire adjoint du 5e arrondissement, dont la mairie, comme vous le savez, est située place du Panthéon. Et alors, il m'avait procuré une place au balcon de son bureau. C'était déjà, vous voyez, les faveurs du pouvoir. Et j'ai vu le défilé des troupes devant le catafalque, musique de la garde, marche funèbre de Chopin, infanterie, cavalerie, artillerie, enfin, vous voyez ça. Et puis, soudain, on entend un claquement sec et la foule des officiels qui se rue sur les marches du Panthéon. Et on voit d'au loin un blessé qu'on emportait, un blessé en civil. Ce blessé, on l'apporte à la mairie et on nous apprend que c'était le capitaine Dreyfus, dont Zola avait pris la défense lors de la fameuse affaire. Et dans la foule qui était massée en bas sur les trottoirs de la rue Soufflot, j'entendais dire « Mais qui c'est-il, ce capitaine Dreyfus ? Qui c'est-il, ce capitaine Dreyfus ?»
Ah bah oui, enfin, quand même, il était déjà un petit peu connu, le capitaine Dreyfus. On en parlait beaucoup, en tout cas. C'est en 1949 que Sénep évoquait le transfert des cendres de Zola au Panthéon. C'est un moment, là aussi, de l'affaire Dreyfus, hein, parce que ça a été évoqué ici, il y a un attentat.
Voilà, c'est un moment de l'affaire Dreyfus. D'ailleurs, la description qui est faite correspond à ce qui s'est passé. C'est un peu vers la fin de la cérémonie que tout d'un coup, un journaliste, il s'appelait Louis Grégory, a réussi à s'introduire dans le Panthéon et il tire sur Alfred Dreyfus, qui évidemment était présent, qui assistait à la cérémonie. Il tire deux coups de revolver. Heureusement, il ne le blesse qu'assez légèrement. Grégory est immédiatement arrêté et un procès aura lieu quelques mois plus tard. Une cour d'assises, au fond, en 1908, c'est-à-dire après la cour d'assises 10 ans auparavant qui avait jugé Zola en 1898, eh bien cette cour d'assises acquitte celui qui a tiré sur Dreyfus au nom d'un argument assez extraordinaire qui est l'argument nationaliste de cette époque. Grégory, pour se défendre, avait dit qu'il avait voulu tirer non pas sur Dreyfus mais sur le dreyfusisme.
Oh là là, oui, alors c'est complexe hein, ça comme argument, mais enfin c'est passé quand même.
C'est passé.
Ah, c'est terrible ça. Martine Leblond Zola, cette histoire familiale est l'histoire de la France aussi. Enfin, nous en parlons, hein, c'est l'affaire Dreyfus, c'est la figure d'Émile Zola. Est-ce qu'il est possible de se départir de cette figure si forte? Et moi j'ai l'impression, à vous écouter, que vous arrivez à faire ce chemin entre le lien familial très fort et puis cette autre histoire. Les deux sont mêlés, c'est pour ça que c'est difficile.
Oui, écoutez, moi, dans le cadre surtout de la Maison Zola Musée Dreyfus pour laquelle je suis vice-présidente, j'exerce un travail de mémoire pour mettre en lumière toutes ces valeurs que Zola défendait, les valeurs de la République. Et Zola incarnait aussi toute une forme d'humanisme. C'était un combattant de la paix. Et effectivement, j'ai beaucoup de plaisir à transmettre toutes ces valeurs auxquelles j'adhère. Et voilà, c'est un travail de mémoire, mais qui est très, très, très agréable, très glorifiant pour éduquer, pour instruire, comme Zola a pu le faire dans toute son œuvre.
C'est ça aussi, c'est rappeler que ce n'est pas juste un moment du passé, ça a un écho jusqu'à aujourd'hui.
Oui, oui, parce que Zola est un exemple. C'est un exemple de courage et d'engagement citoyen. Il a engagé sa vie. Quand il a écrit J'accuse, il s'est lancé dans un combat et il savait très bien qu'il allait être traduit en cour d'assises, hein, mais il a agi selon sa conscience. Et cet acte de courage est exceptionnel et il mérite d'être un exemple à suivre aujourd'hui. Zola est d'actualité parce que avoir l'actualité, très très peu, il y a pratiquement aucun intellectuel ne peut s'engager comme Zola l'a fait. Et je reconnais que parfois, quand j'écoute des émissions de télévision, des émissions à la radio, qu'on ne dit pas suffisamment cet acte si courageux de Zola qui a mis tout en cause, qui a fait fi de toute sa vie, de 40 ans de travail en fait. Tout ça, c'était pour sortir un homme du bagne. Et il le dit d'ailleurs, mon devoir est de parler. Je ne veux pas être complice. Mes nuits seraient hantées par le spectre de l'innocent qui expie là-bas, dans la plus affreuse des tortures, un crime qu'il n'a pas commis. Zola agit sous l'effet d'une intolérance viscérale au mensonge et à l'injustice. Et c'est ça qu'il faut mettre en valeur du personnage de Zola. Et à la maison de Zola, musée Dreyfus, c'est ce qu'on met en lumière à travers le J'accuse. C'est un exemple de courage. Et en même temps, c'est une espérance, montrer que quand on pense que Zola a été jugé par des jurés en cour d'assises, et que c'était en fait, ces jurés étaient composés de citoyens comme lui, qui l'ont condamné à un an de prison et 3000 francs d'amende, c'est absolument mais atroce, alors qu'il a donné sa vie au bonheur de l'humain, en fait. Hein. Et voilà, c'est un exemple. Et c'est vraiment, il faut reconnaître encore cet acte de courage exceptionnel.
Bah, Émile Zola est un animal particulier dans le champ littéraire, Alain Pagès, parce que nous l'évoquons souvent associé à la naissance des intellectuels. Mais c'est vraiment ça qui est important. Et peut-être rappeler combien Zola pouvait être détesté, parce que d'un seul coup, il casse les habitudes que l'on a. Alors c'est sûr qu'il pouvait y avoir le génie de la littérature qui se fait parfois pamphlétaire. C'est un peu Victor Hugo face à Napoléon III. Mais avec Zola, on sent qu'il y a une démarche qui est complètement différente.
Alors oui, c'est un intellectuel, c'est-à-dire que il génère avec son J'accuse des pétitions que Christophe Charles d'ailleurs et Aline Vrona ont évoquées lors d'une émission précédente que vous aviez consacrée à Zola. Ce mouvement des intellectuels surgit avec le J'accuse. Il est à l'avant, voilà, il a lancé son J'accuse, les autres vont l'accompagner. Lui reste peut-être en dehors du groupe, mais ensuite, ce qui est beau chez lui, pour poursuivre ce que dit Martine à l'instant, c'est que il assume parfaitement le procès, il assume la condamnation, et jamais il ne reviendra en arrière. Ensuite, il y aura une année d'exil. Et donc, après avoir lancé le combat de l'affaire Dreyfus, eh bien, il en assume avec un grand courage toutes les conséquences.
Et aussi avec une grande dignité. C'est ce courage et cette dignité qui sont exemplaires. Il y a un tableau d'Henri de Groux, Zola aux outrages, que nous avons à la maison de Zola et qui peut être vu. C'est un tableau qui représente Zola qui sort du palais de justice face à une foule haineuse. C'est vrai que, comme tu dis Alain, il est digne. Ah, et ça, c'est quelque chose, parce que faut pas oublier que Zola n'était pas un politique. Hein. Il n'était pas armé comme les politiques pour affronter cette violence verbale. Bon, qui pouvait être aussi peut-être physique. C'était un écrivain, un penseur, et il a eu ce courage d'affronter, alors que les politiques, Clémenceau était un politique, il pouvait très bien affronter cette violence, tout au moins verbale. Et c'est là qu'on voit vraiment ce courage exemplaire de Zola.
Oui, parce que Zola était détesté. C'est ce qu'évoque Jules Romain. Oui, Jules Romain, hein, celui des hommes de bonne volonté, celui de Knock, qui se souvient des circonstances de la mort d'Émile Zola.
Son intelligence, qui était grande, ne se tournait pas vers le doute, vers l'interrogation critique, et spécialement pas vers la critique de soi-même. Il a toujours été sûr d'avoir raison. Et si quelqu'un qui étude venait en secret l'assaillir, qui en serait toujours préservé au cours d'une longue carrière d'écrivain, il devait certainement mettre son courage, sa force d'âme à l'écarter. Lui, Zola, dès ses débuts, prit une position qui, certes, ne pouvait qu'attirer l'attention sur lui, provoquer la discussion, la polémique, et du même coup le sortir rapidement de l'ombre, mais qui, en revanche, braquait contre lui toutes sortes de gens, le désignait aux attaques, faisait de lui, pour tout un secteur de l'opinion et de la presse, une tête de Turc, emploi qu'il allait garder jusqu'à sa mort, en ne faisant rien, il faut le reconnaître, pour s'en décharger.
Oui, parce qu'il y avait de ça aussi un peu de provocation, mais provocation saine, légitime. C'est Jules Romain, en 1952, qui parlait d'Émile Zola, Alain Pagès. La mort d'Émile Zola, alors sans doute assassinat, hein, vous nous avez bien expliqué pourquoi, mais la disparition en soi ne change pas la figure de l'homme. C'est très intéressant parce que souvent la mort des gens apaise les colères. Une fois qu'ils ne sont plus là, tout le monde devient sensationnel. Mais pour Zola, c'est pas ça, parce qu'il est porteur de quelque chose, j'ai envie de dire même qui le dépasse, d'idées qu'il a fait jaillir dans la société et qui posent toujours problème.
Alors oui, il y aura de toute façon cette affaire Dreyfus qui sera présente dans l'entre-deux-guerres, qui fait toujours débat, et les deux thèses à cette époque s'opposent, hein, c'est-à-dire il y a ceux évidemment qui reconnaissent et défendent la réhabilitation de 1906, mais toute la droite française s'y oppose. Et donc on a cette double vision, cela jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Zola lui est accompagné à ce moment-là dans l'université par l'idée de l'homme qui a écrit des romans obscènes, au fond des romans scandaleux. C'est l'image du naturalisme qui s'attache à l'œuvre de Zola. Il est assez peu étudié, pas du tout reconnu. C'est simplement après la Seconde Guerre mondiale, mais longtemps après, je dirais dans les années 60-70, que tout d'un coup, on commence à comprendre le classicisme au fond des romans de Zola, la grande pureté du récit, et que cette œuvre, eh bien, se dégage de cette idée de l'homme obscène, qui était celle de la critique jusque-là, pour devenir celle qui accompagne au fond le romancier, hein, le romancier que l'on découvre à travers des chefs-d'œuvre qui ne sont plus objets de scandale, à travers L'Assommoir, à travers Germinal, ou à travers d'autres textes même, peut-être plus consensuels, comme par exemple Au bonheur des dames.
Oui, parce qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui combien Zola a posé polémique. C'est très intéressant, hein, de voir comment, mais même tous ceux que Zola a pu côtoyer aujourd'hui, je pense aux impressionnistes, qui ont fait tellement hurler, certains aujourd'hui sont devenus des institutions. Pour Zola, c'est la même chose.
Parce que Zola, dans toute sa saga des Rougon-Macquart, a dénoncé les iniquités sociales de façon à ce que la société change et améliore la condition des ouvriers, des classes misérables. Donc effectivement, Zola gênait, parce que Zola était un humaniste, et c'est la raison pour laquelle il a écrit toute cette saga, pour dénoncer toutes ces inégalités. Il avait foi en l'humanité, en fait. Il voulait sortir l'humanité de la misère, en fait. C'était vraiment l'humanisme avec un grand H. Et il dérangeait, naturellement.
Oui, mais jusqu'à tard, hein, c'est ça qui est fou. Parce qu'aujourd'hui, si nous ne regardons pas par le passé, il y a cette impression que Zola est l'institution depuis qu'il commence à écrire. Mais non, on en est très, très, très loin.
Voilà, il y a un double reproche, d'ailleurs, qui s'attachait à son œuvre encore dans les années 60. L'idée du romancier obscène, et aussi le fait qu'on disait qu'il écrivait mal, au fond, voilà. Hein, il y a l'idée qu'il est bien inférieur à Proust ou à Flaubert. Et les programmes scolaires, au fond, dans les années 70, quand on réfléchit aux questions des techniques du récit, l'école va peu à peu reconnaître la force d'écriture qu'il y a dans les romans de Zola, et on arrive à percevoir à la fois la dimension du classicisme, ce que j'évoquais à l'instant, et en même temps cette force épique extraordinaire qui peut se trouver dans les grandes pages de Zola. Je pense évidemment à Germinal.
Et puis dans son œuvre, il cherche à instruire les classes, en fait, c'est ça, en fait, c'est l'éducation, par l'éducation aussi, et son œuvre est une immense épopée sociale, et c'était ça son combat pour libérer l'homme, et il le disait même en 1901, un an avant sa mort, qu'il était pour la libération de l'homme. Il avait foi en l'humanité, il avait une espérance de libération de l'homme pour son bien-être, pour un esprit fraternel et pacifique.
Il y a Zola, l'homme public, oui, l'écrivain engagé, et puis il y a le Zola intime, son fils Jacques, votre oncle, madame.
Des souvenirs personnels sur mon père, ils surgissent en foule dans ma mémoire. Mais j'étais bien jeune, j'avais 11 ans quand il est mort. Ce sont surtout des souvenirs intimes, comme peuvent en avoir tous les enfants qui adorent leur père. Il était si bon pour nous, et si dans sa bonté, il s'est toujours efforcé de nous cacher ses soucis, surtout au moment de l'affaire Dreyfus, il nous apparaissait à ma sœur et à moi, à travers le dévouement passionné de notre mère, comme un être exceptionnel que nous admirions autant que nous aimions. Notre enfance fut heureuse, sans histoire, avec notre mère dans l'ombre de notre père.
Nous étions en 1949 quand s'exprimait Jacques, le fils d'Émile Zola. Martine Leblond-Zola, vous êtes l'arrière-petite-fille d'Émile Zola. Donc, dans cette histoire familiale, il y a autre chose. Il y a Zola photographe, Zola famille. C'est très touchant et ça participe aussi à la construction du personnage tel que nous le connaissons. Il y a un aspect familial très fort.
Oui, vous évoquez le Zola photographe, parce que Zola était un homme très moderne, très progressiste pour son époque. Et bon, il avait foi en la science et en toutes ses découvertes. Bon, la photographie, on a des souvenirs comme ça de famille, hein, avec des photos quand les enfants étaient jeunes. Et c'est toute une histoire illustrée par ses souvenirs. Et on voit la bonté de cet homme, et comme le dit Jacques, mon oncle, que ça m'avait fait beaucoup d'émotion, parce que j'ai connu Jacques, d'entendre cette voix chaleureuse qu'il avait. Je le vois encore rue Pigalle, dans son appartement, et c'est vrai que Zola était un homme d'une grande bonté. Et j'étais très émue d'entendre la voix de Jacques, mon grand-oncle.
Et il y a une modestie dans ce qu'il dit en plus, parce que porter un nom comme ça, on pourrait dire que c'est lourd.
Mais vous savez, quand on descend de là, on est très humble. On est peu de choses à côté, donc on est modeste, on est humble. On est là justement pour... on n'a pas à défendre, parce que la mémoire est défendue comme des personnes hautement qualifiées comme Alain Pagès. Mais vous savez, comme je dis toujours, c'est la nature qui a voulu que du sang de Zola coulât dans mes veines. Mais c'est toujours émouvant d'entendre des voix comme cela. Et bon, c'est vrai que c'est une grande fierté. Et aussi, bon, une grande responsabilité.
Et puis, partout en France, il y a des enseignants, des enseignantes qui éduquent. Alors ça, c'est un moment important parce que, je le disais tout à l'heure, c'est souvent par l'école qu'on rencontre Émile Zola. Et après, souvent, on l'oublie, on le redécouvre plus tard.
Oui. Et puis alors, nous, au musée, on n'a même pas un projet, parce que c'est en réalisation, des dossiers pédagogiques qui seront à disposition des enseignants sur notre site internet, avant la visite du musée Dreyfus, pendant la visite et après la visite. Et on a une salle pédagogique, et dans quelques semaines à peine, ces dossiers pédagogiques seront en ligne et on va permettre, et là j'attends ces moments-là avec impatience, de rencontrer et d'échanger avec les collégiens et les lycéens sur toutes ces questions de fraternité, de vivre ensemble. Car bon, comme la société est encore beaucoup divisée, nous, on est à la Maison Zola, Musée Dreyfus, là pour instruire, éduquer. Et c'est vrai que le rôle des enseignants est très important à l'heure actuelle. Et je les félicite.
Vous allez pouvoir le faire tout de suite, parce qu'avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, Alina Nastas Gonzalez, bonjour.
Bonjour.
Dites-nous, alors vous jouez.
Oui, alors nous on joue, mais sérieusement. on joue à Zola, on joue à son œuvre. Depuis quelques années, je travaille en fait sur l'adaptation en jeu vidéo sérieux de La Bête humaine d'Émile Zola. Et effectivement, nous sommes aujourd'hui face à un prototype test, ce qu'on appelle un prototype bêta, qui permet de jouer au texte de Zola, au texte romanesque de Zola, donc de La Bête humaine, mais également aux dossiers préparatoires qui ont servi à la rédaction, à la conception de ce roman.
Il y a un contraste saisissant entre l'informatique et la bête humaine. Parce que la bête humaine, c'est la locomotive, hein, c'est une autre forme de machine. Quoique, en réalité, je pense qu'il y a des passerelles.
Exactement, c'est un projet flambeau déjà, puisqu'il a été commencé en 2017 avec des étudiants en BTS avec l'objectif tout simple que j'avais en tant qu'enseignante de leur faire lire La Bête humaine ou du moins un extrait autrement. Et c'est un projet qui a été ensuite repris par deux étudiants en 2019 et en 2020, des étudiants qui sont en école de jeux vidéo à l'IUT de Bobigny. Et effectivement, nous ne sommes pas très loin de la question de la machine, de l'action. Et c'est en écoutant vos invités, j'étais en train de me dire qu'effectivement, mon rôle en tant qu'enseignante, c'était non seulement de me faire passeur de textes au lien et d'essayer de transmettre cette passion que j'ai pour cet auteur qui m'a été inspirée elle-même par un enseignant à l'université, Paolo Tortonese, sur le roman de Nana, mais surtout de permettre aux élèves et aux étudiants d'être eux aussi des personnes en action, des lecteurs en action, des hommes en action, comme il a été Zola. Et du coup, cette adaptation de La Bête humaine en jeu vidéo sérieux permet d'envisager la lecture comme un instrument qui se fait à travers l'adaptation en code informatique, qui se passe en fait entre un geste d'appropriation et un geste d'adhésion qui se met en place lorsque... il y a cette cohabitation très très prolongée des lecteurs avec le texte de Zola. Puisque, par exemple, pour réaliser le prototype de La Bête humaine actuelle, il a fallu déjà une écriture d'un scénario vidéoludique qui a duré 6 mois avec les étudiants de BTS au départ, et ensuite 2 années où les étudiants apprentis qui ont développé le prototype ont fouillé dans les dossiers préparatoires du roman, ont lu à l'endroit et à l'envers La Bête humaine, ont cohabité avec ma passion pour Zola, avec des récits sur la vie de l'homme, du romancier, et puis surtout avec toutes les coulisses de la création, puisque... il y a tant de choses en fait à faire valoir dans l'œuvre romanesque, mais également dans les documents d'enquête et dans la façon dont Zola concevait ses romans.
Alina Anastas Gonzalez, vous êtes l'autrice d'une thèse intitulée « L'institutionnalisation d'Émile Zola dans les manuels scolaires des lycées au XXe siècle ». C'est une thèse que vous avez soutenue en 2012. Dans cette institutionnalisation de Zola, que constatez-vous en fait? Comment Zola devient cette institution? On l'a évoqué que ce n'était pas évident du temps de Zola, bien entendu, mais encore avant la Seconde Guerre mondiale, que Zola devienne la référence qu'il est aujourd'hui.
Effectivement, mon travail de recherche consistait à voir comment les extraits d'Émile Zola étaient proposés dans les manuels scolaires à une étude. C'est-à-dire de quelle manière, en fait, l'institutionnalisation, c'est plus que de devenir une institution et donc d'avoir une légitimité, c'est surtout devenir cet objet scolaire enseignable qui s'articule avec des objectifs pédagogiques et des démarches didactiques que les enseignants mettent en œuvre. Et ce que j'ai pu constater, puisque mes recherches remontaient à la toute fin du 19e siècle, il était d'ailleurs impensable de trouver des références à Zola, mais j'ai quand même tenté ma chance. Effectivement, comme le disait aussi Alain Pagès avant, des romans comme L'Assommoir, comme Germinal, Au bonheur des dames, sont venus s'installer, prendre une bonne et belle place dans les manuels scolaires. Et je pense que cela a été aussi ponctué par les adaptations transmédiales qui ont vu le jour, et c'est un peu cette voie que j'ai essayé de suivre au-delà de ma thèse, en me disant qu'il serait réducteur de se réduire justement à l'étude de Zola à partir des textes qu'on conseille dans les manuels, même si les enseignants les prennent en compte, ces conseils. Mais j'avais envie de passer plus de temps sur l'œuvre de Zola. Je l'ai enseigné. J'ai enseigné par exemple l'œuvre en classe de première pour la préparation des épreuves du baccalauréat. Mais je n'ai jamais eu vraiment la possibilité, le plaisir de prendre mon temps à enseigner Zola. Et ce projet d'adaptation qui s'est fait sur plusieurs années a été vraiment, véritablement un luxe, celui de prendre son temps pour travailler sur l'œuvre, sur l'homme, de s'approprier le texte zolien dans le sens où, si on le voit comme la métaphore que Bertrand Gervais utilisait, le texte comme une terre dans laquelle on s'installe, qu'on aménage, qu'on s'approprie, donc petit à petit, et puis travailler sur l'œuvre de Zola dans le sens d'une adhésion qui part certes d'une curiosité et puis d'une attention qu'on lui attribue, mais cette attention, elle doit perdurer dans le temps. Et effectivement, Jérémy Tapia et Tom Diaz, ces deux étudiants qui ont passé tellement de temps avec Zola, c'est ce qu'ils ont pu faire, donner de leur temps.
Donner de leur temps et donner l'envie de relire. Je dis relire, ça fait toujours plus classe que de dire lire. Hein. De relire Zola. Merci à Alina Anastas Gonzalez, parce que c'est ça qui est très important, c'est retrouver le plaisir même de la lecture, de la redécouverte. Mais Alain Pagès, à vous écouter, discuter d'Émile Zola, je me demande si la mémoire de Zola n'aurait pas besoin encore d'être sans cesse défendue. Zola n'est pas une évidence encore aujourd'hui. Il est devenu une institution scolaire, bien sûr, mais peut-être expurgé de tout ce qui fait aussi la force de Zola, c'est-à-dire ce côté combattant.
Oui, sans doute. Les romans de Zola sont toujours très vivants. L'Assommoir doit être relu ou germinal par le côté polémique, au fond, que ces romans peuvent porter en eux. Et il y a d'ailleurs, je crois, dans la relecture d'aujourd'hui, ce mouvement, c'est ce que disait Alina à l'instant, qui est fait par les adaptations. On a ce qu'elle évoque, on a aussi les bandes dessinées, et évidemment, je pense au cinéma. On a eu le Germinal de Claude Berry, par exemple, il y a quelques années, et puis France 2, qui a mis en scène à travers 6 épisodes un nouveau Germinal. Chaque fois, les spécialistes ou les fervents de Zola peuvent être déçus par ces adaptations qui ne correspondent pas, évidemment, tout à fait au texte. Mais je crois qu'il y a là, au fond, une reconnaissance. Hein. Et ces adaptations réécrivent l'œuvre de Zola, elles l'adaptent à leur façon, et c'est un mouvement qui est tout à fait fort.
Oui, parce qu'il y a tout ce travail à faire et c'est un peu ce qui est fait à la maison Zola. Vous nous la présentez, Martine Leblond-Zola, cette maison?
Oui, alors la maison de Zola est à Médan, à une vingtaine de kilomètres de Paris. Donc on peut y voir la maison de Zola dans la propriété de Zola. Et juste à côté, on a créé un espace consacré à l'affaire Dreyfus, le musée Dreyfus, dans un bâtiment annexe. Donc cet ensemble a ouvert l'année dernière, exactement, il y a juste un an. La maison de Zola avait été ouverte quand même pendant 24 ans. Hein, et elle avait nécessité beaucoup de travaux de restauration. Et là, il faut remercier vraiment Pierre Berger qui a été notre mécène exceptionnel et qui a engagé aussi des partenaires publics pour nous aider à cette restauration de cette maison qui retrouve son cadre originel. Donc c'est une maison d'écrivains. C'est une visite, en fait un voyage dans le passé. Voilà, on se trouve dans l'intimité. Et le musée Dreyfus à côté, dont Philippe Auriol est le commissaire, a été le commissaire d'exposition et maintenant le directeur scientifique. Alors là, c'est une présentation de l'affaire Dreyfus avec un plan scénographique très moderne. Et le fil rouge, c'est J'accuse, le fil rouge naturellement. Qui offre tout un... Bon, c'est une découverte de ce lieu qui mérite d'être vu. Alors, pour venir nous voir, attention, on réserve avant, réservation obligatoire sur le site de Cultival, et on invite tous les gens à venir découvrir ce lieu, ce haut lieu patrimonial.
Puisque c'est une histoire familiale, on va visiter cette maison avec votre père qui... Ah. Vous évoquiez le lien, oui, avec le passé, une archive de 1980.
Moi, j'aime Médan car, en effet, c'est bien le seul endroit où Zola reste vivant. Il faut bien que nous comprenions quelque chose, c'est que je suis le descendant d'Émile Zola, mais je ne l'ai pas connu. Je n'ai pas connu sa voix, j'ignore sa démarche, et c'est certainement à Médan que je m'efforce et que j'arrive souvent à l'évoquer. souvent à Médan, dans des moments de solitude que je me crée le long des allées ou au balcon de son cabinet de travail, j'ai cru souvent ressentir d'étranges douceurs, comme si j'avais passé avec lui quelques instants d'intimité. Et c'est ça que j'aime dans Médan.
Jean-Claude Leblond Zola qui s'exprime en 1980 sur France Culture à propos de Médan. C'est particulier cette proximité grâce à un lieu, hein, la maison. Et les maisons d'écrivains, c'est toujours un lieu sensationnel, hein, d'écrivains, d'écrivaines, je pense à Georges Sand aussi. C'est un lieu magnifique. À Médan, on sent un peu la proximité de l'auteur.
Ah oui, on entre dans son intimité. On entre dans l'intimité, on voit... Bon, là, d'abord, Zola était le bâtisseur de cette demeure grâce aux droits d'auteur de ses œuvres, parce que c'est grâce au travail. Zola défendait beaucoup la valeur travail. Donc, c'est ces années de travail qui lui ont permis d'acquérir cette propriété, bon, qui est un mélange un petit peu de château, on pourrait dire, mais encore une fois, ce serait plutôt un château démocratique. Alors, c'est un mélange d'ameublement plus ou moins moyenâgeux, puisque Zola a baigné dans le romantisme quand il était jeune avec les lectures de Musset, Hugo. Alors ça surprend toujours, on voit des fleurs de lys alors que Zola était un républicain convaincu, donc toutes les visiteurs sont effarés. Alors on dit non, attention, Zola n'était pas royaliste, mais des républicains. Mais ça fait partie du goût de l'époque, hein, quand on va chez Victor Hugo à Gare. C'est la même chose, mais c'est un voyage dans le temps et on se trouve dans l'intimité. Je dis, c'est du rêve. Et Zola est allé à Médan, c'était pour lui un sanctuaire, un paradis, disons un lieu de retraite, loin des mondanités de Paris, dans la nature. Parce que Zola était un écologiste avant l'heure. Sa drogue, c'était la nature. C'était le contact avec les animaux. D'ailleurs, on peut admirer dans son grand salon, salle du billard, des magnifiques vitraux qui annoncent l'art nouveau d'un certain Babenaud. On voit des animaux, c'est une végétation luxuriante. On lit le Paradou, c'est quelque chose d'une évocation de la nature. Zola fait entrer la nature dans son salon. Voilà, c'est un voyage dans le temps, c'est un voyage, et j'invite tous les auditeurs à venir se replonger dans cet espace.
On vous a bien entendu, Anna Pagès.
Oui, Martine Leblanc-Zola parle parfaitement de Médan. Elle a raison d'inviter les auditeurs à y venir. Je dirais simplement que c'est vraiment une maison d'écrivain, dans la mesure où il l'a construite au fur et à mesure que l'œuvre progressait. Il y a la tour Nana, qui est la première tour qu'il fait construire, au sommet de laquelle se trouve le cabinet de travail. Et puis, quelques années plus tard, il y aura la tour Germinal. Donc, il est passionnant d'arriver devant cette maison, de voir au fond quelle est une partie de son œuvre, et puis ajoutons le souvenir qui s'accroche à cette maison, le souvenir des soirées de Médan, c'est-à-dire de ce qui est l'apogée de l'école naturaliste dans les années 1880, quand Zola, avec ses amis Maupassant, Huysmans et des autres, publie un recueil de nouvelles qui donnera à Médan sa grande célébrité, les soirées de Médan.
Oui, c'est quoi ces soirées de Médan ?
Soirées de Médan, c'est un recueil de nouvelles, 6 nouvelles, sur la guerre de 1870. Donc c'est un recueil qui est très dur d'ailleurs, qui va à rebours de la littérature patriotique de l'époque, mais qu'ils ont voulu aussi avec ce titre, qui est un titre au fond assez doux, hein, qui n'est pas le titre dur du roman antimilitariste que sont ces nouvelles. C'est un recueil qui se veut comme un signe de l'amitié que Zola avait avec ceux qui travaillaient avec lui, avec Maupassant et Huysmans notamment, c'est-à-dire ceux qui croyaient en ce message de l'école naturaliste qu'il a mis en place en 1879-80.
Martine Leblond-Zola.
Oui, alors cette maison est non seulement un lieu de création littéraire, mais c'est aussi un lieu de convivialité, parce que Zola faisait profiter ses amis de son argent qu'il gagnait grâce à son labeur durement gagné. Et cette maison était ouverte à beaucoup d'amis, hein, puisqu'on avait fait construire un petit pavillon pour les recevoir, du nom du pavillon Charpentier, du nom de son éditeur. Et ce petit pavillon a toujours vocation d'accueil, parce que c'est là où on reçoit le public. Et puis au fond de la propriété, il y avait aussi une ferme, parce que non seulement on recevait les amis, mais il fallait bien les nourrir. Et c'est tout un espace, et dire là encore, encore la générosité, la bonté de Zola, qui faisait participer ses amis à sa fortune, en fait. Donc, Madame Zola, alors là, il faut rendre aussi hommage à Madame Zola, qui était une maîtresse de maison accomplie, hein, puisque c'est elle qui œuvrait à la cuisine, qui surveillait les travaux, il y avait beaucoup de domestiques, en fait. C'est tout un monde qu'il faut visiter, voilà.
Elle appartient à qui, cette maison, aujourd'hui? C'est la famille
Non, elle n'a jamais appartenu à la famille. À la mort de Zola, Madame Zola donnait la maison à l'assistance publique. Cette maison est devenue une pouponnière pour enfants convalescents de l'hôpital Paris-Necker, enfants malades, pendant 60 ans, jusqu'en 1967. Le cabinet de travail était transformé en pouponnière. Il y avait des berceaux que j'ai connus, d'ailleurs, je me souviens très bien. Alors, en plus, fait grâce de tous les événements suivants. Et depuis, elle est la propriété de l'association Maison Zola Musée Dreyfus, dont le président est Louis Gauthier actuellement. Donc c'est l'association qui est propriétaire et qui gère cette maison. Et là aussi, il faut rendre hommage à Pierre Berger. Sans lui, la maison, je pense, n'existerait plus, parce que l'assistance publique voulait vendre la maison pour un franc symbolique. Alors chapeau à Pierre Berger et aux partenaires publics, l'État, la région, le département, la commune, et la communauté urbaine, voilà, qui ont permis que ce lieu patrimonial soit préservé, parce que c'est vraiment un lieu universel de création, en fait. Moi, j'invite tout le monde à aller découvrir.
Martine Leblond-Zola, vous avez évoqué Madame Zola, oui, et votre arrière-grand-père. Pour ceux qui ne connaissent pas la finesse de la généalogie Zola, est-ce que vous pouvez expliquer?
Oui, oui. Alors, c'est toujours ça. Vous allez dans l'intimité, hein. C'est toujours un petit peu dangereux, parce que Zola n'a pas eu d'enfant avec sa femme. Et comme moi, j'ai toujours dit que, comme disait Einstein, la vie privée est une chose intime qu'il est difficile de juger, de critiquer. Chacun sa vie privée. Alors, certes, Zola est tombé amoureux, je dirais malgré lui, d'une jolie jeune fille qui était employée comme lingère à la maison de Zola. Elle avait 21 ans, lui avait 48 ans, il l'entendait chantonner dans la lingerie, lui était dans son cabinet de travail avec ses 1200 personnages, il rêvait. Bon, c'est son imaginaire, il est tombé amoureux. Bon, mais on lui a apporté, comme je dis, un petit peu l'amour sur un plateau d'argent, en fait. Et voilà, sont nés de cette union deux enfants, tout en spécifiant quand même qu'aucune relation ne s'est créée entre Zola et Jeanne à Médan, puisque nous avons connaissance d'une lettre de Zola à Jeanne le 11 décembre 98, et Jeanne était partie de Médan, et Zola a dit en remerciement de nos 10e anniversaire d'amour, et voilà. Donc c'était un triste. Mon père nous a toujours dit qu'il fallait respecter autant Jeanne que Alexandrine, que c'était aussi un drame. C'est toujours difficile de parler, mais encore une fois, faut respecter la vie privée, comme disait Einstein. Voilà, donc je suis toujours dans la... Mais par contre, Alexandrine, on a beaucoup de respect pour elle. C'était une femme forte qui a vraiment endossé cette aventure. C'était cruel pour elle. Et là aussi, chapeau à Alexandrine.
Non, mais voilà, c'est cette histoire.
Elle a reconnu les enfants de Zola. Elle a reconnu les enfants de Zola. Après la mort de Zola, qui ont porté, grâce à elle, grâce à Alexandrine, le nom de Émile Trédunion Zola.
Voilà. Donc elle a permis une démarche auprès des autorités pour que les enfants... Parce que parfois on dit, c'est une erreur, parfois on dit que Madame Zola a adopté les enfants. Elle n'a pas adopté les enfants. Parce qu'on savait, je suis toujours un petit peu, vous voyez, quand j'entends des erreurs comme ça, c'est ma famille, en fait, hein. Madame Zola n'a jamais adopté les enfants. Bon, les enfants étaient des enfants naturels. Ils ont porté le nom de Jeanne, de Rose-Rose, de leur mère. Et Madame Zola a permis, en faisant les démarches auprès des autorités à l'époque, que les enfants portent le nom de Zola. Voilà.
Denise et Jacques. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, ce que nous devons faire là, dans les temps qui viennent, c'est aller visiter la maison Zola, le musée Dreyfus quand même. Ah, oui, ce serait dommage de pas y aller. Relire l'affaire Dreyfus d'Alain Pagès, bien sûr, ou le Paris d'Émile Zola. Et puis, relisons Zola, tout simplement. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Nous retrouvons tout de suite...
Non,
c'est moi qui vous remercie, vraiment. Nous retrouvons tout de suite Gérard Noiriel et le pourquoi du comment.
Pourquoi la cuisine anglaise a mauvaise réputation ? Dans un éditorial daté du 7 juillet 2020, le Times avait donné une bonne illustration de l'humour anglais, teinté d'autodérision, en affirmant que l'attachement indéfectible des Britanniques aux aliments bourratifs, qui provoquent les railleries de nos voisins continentaux depuis des siècles, est manifestement enraciné dans l'histoire. Cette affirmation a suscité des discussions entre les historiens que je résumerai rapidement dans ma chronique d'aujourd'hui. Le 14 octobre 1066, le dernier roi anglo-saxon a été vaincu lors de la bataille d'Hastings par le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant. Les spécialistes de cette époque ont montré que cet événement militaire et politique avait eu aussi des conséquences importantes sur le plan socio-culturel, car c'est aussi à partir de ce moment-là que les Anglais ont adopté de nouvelles habitudes alimentaires en consommant beaucoup plus de plats à base de porc et de poulet. Des études récentes ont remis en question ce constat, car il semble que les effets de la conquête de l'Angleterre par Guillaume de Normandie se soient arrêtés à la porte des foyers populaires, le peuple d'outre-Manche ayant continué à manger des légumes mous et du mouton bouilli. Ce fait était resté dans l'ombre jusqu'ici, car aucune archive écrite ne permettait de l'attester. C'est grâce aux nouvelles techniques mises en œuvre par l'archéologie que l'on a pu clarifier ce point. 950 ans après que Guillaume le Conquérant a débarqué sur le sol anglais, les chercheurs de l'université de Cardiff, en collaboration avec des spécialistes des universités de Sheffield et de Bristol, ont lancé un programme d'études archéologiques et scientifiques visant à découvrir l'impact de l'invasion sur l'alimentation, les habitudes culinaires et la santé des classes populaires. Pour cela, ils ont mis à contribution les techniques de la chimie osseuse en étudiant les isotopes, c'est-à-dire les atomes composés d'électrons et de neutrons contenus dans les os de 36 squelettes. Ce travail a été complété par l'analyse des résidus lipidiques d'aliments tels que le porc, l'agneau, le bœuf, les produits laitiers et le poisson retrouvés sur des échantillons de poterie exhumés lors des fouilles récentes dans la région d'Oxford. Ces investigations ont permis de mieux connaître les régimes alimentaires des habitants et d'accumuler un grand nombre de données concernant les maladies métaboliques, les maladies dentaires et l'état biologique général de la population de cette époque. Grâce à toutes ces connaissances, on mesure mieux aujourd'hui quel a vraiment été l'impact de la conquête normande dans la société anglaise. On s'est aperçu que les innovations culinaires venues de Normandie n'avaient modifié la vie des gens ordinaires que très lentement et très modérément. Après une courte période de pénurie liée à l'invasion, la consommation de légumes, de feuilles, de céréales, de bœuf et de mouton est redevenue prépondérante. Ces analyses archéologiques et scientifiques offrent ainsi un regard nouveau sur cette période. La conquête normande a certes été un événement essentiel dans l'histoire politique de l'Angleterre, mais la vie quotidienne du peuple anglais n'en a pas été bouleversée pour autant.
Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Sam Bakiast et Alexandre Manzanares, avec aujourd'hui à la technique Lucas Finet. Le cours de l'histoire, une émission préparée par Anne Toscan-Viudès, Jeanne Delecroix, Jeanne Copet, Violette Ruiz et Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France.